face à l'engagement mondial pour l'adaptation. Alors, pour atteindre ces objectifs, il faut le moyen. Les solutions recherchées par les États au niveau des Nations Unies sont des solutions naturelles et la FDC en dispose. Premièrement, son potentiel forestier qui a la capacité nécessaire de séquestration de pollution mondiale. Et pour que ces forêts-là continuent à organiser leurs services quotidiens en faveur de l'humanité, en termes de séquestration de COD, comme je l'ai dit, il faut que ces forêts soient debout. Alors, pour que ces forêts soient debout, la stratégie par excellence de préserver ces forêts, c'est d'élargir la desserte en électricité de la population, donner l'alternative à l'énergie basée sur le bois de chauffe, n'est-ce pas? Et là, le Congo peut donner aussi cette réponse mondiale parce que le Congo, ce n'est pas seulement le potentiel forestier, mais c'est aussi un réseau hydraulique puissant. Le fleuve Congo, avec tous ses affluents, le fleuve Congo est donc deuxième au monde en termes de débit, et après l'Amazonie, et deuxième au monde par sa longueur après le Nil. Alors, ces débits-là peuvent procurer au Congo l'énergie hydroélectrique, donc l'électricité hydroélectrique qui peut desservir environ 70% de la population et même les autres pays d'Afrique. J'insiste là-dessus parce que la population congolaise, comme les populations des pays du bassin du Congo, vivent de leurs forêts. La forêt, c'est la garde à manger. La forêt, c'est l'énergie. Le bois de chauffe, ça aide non seulement les ménages pour les braises, des cuissons et des chauffes, comme je l'ai dit, mais aussi les petites et moyennes entreprises pour avoir l'habitat décent. En semi-durable, les briques sont cuites avec le bois de chauffe. Pour extraire de l'huile, l'huile de palme ou l'huile palmiste, on utilise le bois de chauffe. Pour avoir sa petite unité de savonnerie, on a besoin du bois de chauffe. Pour avoir sa boulangerie ou du pain quotidien, c'est le bois de chauffe, vous voyez. Donc, du coup, les forêts reçoivent les pressions. Alors, pour éviter cela, il faut utiliser la stratégie de l'électricité. Non seulement hydroélectrique que nous pouvons pourvoir, il y a aussi l'énergie, l'électricité photovoltaïque. Donc la barre de l'équateur passe par-dessus nos têtes au Congo. Et puis il y a plusieurs autres énergies, dont le biogaz, etc., avec l'économie circulaire, la valorisation des déchets qui peut aussi produire en somme l'électricité. Donc, deuxième stratégie. Et enfin, troisième possibilité de la RDC pays solution au changement climatique, c'est nos minerais stratégiques. Nous avons aujourd'hui les minerais stratégiques tels que les cobalt, les lithium, magnésium, etc. Les coltan, colombo, tantaïg, ce sont là des minerais qui peuvent nous amener à atteindre rapidement l'objectif mondial de 1,5 de température au niveau planétaire avec la transition écologique. Donc plusieurs constructeurs de véhicules aujourd'hui, je peux même citer Jaguar qui a dit qu'en 2022 il ne produira plus un seul véhicule pollueur. Et là nous avons les ressources, les matières premières qui peuvent atteindre cela. Alors le tout, nous présentons donc la RDC comme étant un pays solution. Donc depuis lors, nous faisons ces plaidoyers. Mais il y a quand même certains préalables à cela. Lequel préalable, c'est que la RDC ait accès, n'est-ce pas, au même titre que les pays du bassin du Congo, que nous puissions avoir accès à tout ce qu'il y a comme fonds d'adaptation. Ces fonds d'adaptation, nous allons les utiliser en ordre utile par rapport à ce que j'ai dit pour la gestion durable des forêts, les investissements au niveau de l'énergie. Il y a l'agriculture, par exemple, sur Brûlis qui contribue à la dégradation des forêts, ça nécessite à ce que ces populations puissent avoir une alternative avec une agriculture mécanisée, des semences améliorées, etc. Et d'autres programmes sociaux de base. On a besoin d'infrastructures sociales de base comme l'éducation, la santé, l'emploi, les routes de dessert agricoles, etc. Donc il faudrait que nous ayons accès à cela parce que ça fait partie des objectifs de développement durable qui est de lutter contre la faim, contre la pauvreté, de travailler à la préservation de ces ressources forestières et aussi en même temps préserver la biodiversité incommensurable que nous avons. Parmi les préalables, c'est la transformation locale de ces ressources. Et je venais de dire, les minerais, par exemple, les transformer localement. Et comme ça, on va augmenter la chaîne de la valeur ajoutée en termes aussi d'emploi et l'autonomisation, que ce soit l'autonomisation des femmes, l'implication de la jeunesse. Et ça permet au Congo de lutter contre la pauvreté et de ramener le développement. Du coup, nous allons protéger ce potentiel. Parce que lorsqu'on demande aux pays qui habitent aux côtés des forêts de devoir les préserver, de changer les comportements, avoir des comportements responsables pour la protection de cet environnement, il faut qu'il y ait une compensation. Laquelle compensation? Nous ne voulons pas que ça soit considéré comme un don, mais plutôt un droit. Et c'est ce qui nous amène à dire que nous devons quitter progressivement l'aide au développement, aller vers des investissements solides. Et là, nous nous adressons, entre guillemets, aux pays industrialisés qui sont en même temps des pays pollueurs. Donc, on ne les condamne pas d'être des pays industrialisés, on ne les condamne pas d'être pollueurs parce que nous tous, nous voulons l'industrialisation. Mais l'industrialisation a aussi le revers de la main, c'est la pollution. Mais il faut le reconnaître. Alors, de l'autre côté, vous avez des pays non industrialisés qui, eux, donnent la réponse des jugulés, donc donnent la réponse par rapport à cette pollution. Alors, lesquels pays, ce sont leurs ressources, maintenant, qui sont présentées au niveau de l'humanité tout entière. Ça nécessite une compensation. Voilà ce que je veux
donc
dire.
Vous présenterez en fait un potentiel pas d'engagement en termes de réduction.
Si. Ça, c'est d'abord le premier volet. Il faut d'abord venir positivement dans ces concerts des nations. Et les engagements, en ce qui nous concerne aussi, nous avons notre CEDEN, la contribution déterminée pour lutter contre la pollution. Dans notre CEDEN, nous avons placé de réduire aussi des émissions. Tout ce qu'il y a comme entreprise de réduction des émissions, nous nous sommes engagés dans notre CEDEN à 21% de ces engagements, parmi lesquels 19% ça serait des engagements conditionnels et 2% inconditionnels qui proviendra au niveau interne. Il faut reconnaître que c'est vrai qu'il y a des éléments de pollution chez nous, Benazine, certaines moindres mesures. Nous ne fabriquons pas les véhicules, nous les importons, mais désormais nous avons pris des mesures au niveau du gouvernement, avec notre avènement au gouvernement, d'instaurer la taxe carbone et aussi de mettre en place l'autorité de régulation du marché carbone. Ça, ce sont des mesures que nous avons prises justement pour limiter, réduire de plus en plus tout ce qu'il y a comme pollution. Et puis, je vous ai parlé de l'agriculture, ça fait partie aussi de nos engagements de réduire ou de bannir carrément les systèmes de culture sur brûlure. Mais là, ça nécessite les moyens pour l'adaptation. Les populations doivent s'adapter à la nouvelle donne du climat, changer de comportement, je l'ai dit, promouvoir l'énergie alternative, renforcer la multiplicité des autres énergies. Donc, nous nous sommes engagés dans notre document de contribution déterminée, qui va être d'ailleurs finalisé en termes d'adoption au niveau du gouvernement et que nous allons amener là-bas. Donc, nous nous présentons comme pays solution. Et lorsque nous offrons la solution, c'est même nous-mêmes aussi nous prenons l'engagement de lutter contre la pollution. C'est un engagement mondial.
Mais concrètement, ce n'est pas dire que vous allez demander à la communauté internationale de financer des barrages sur le fleuve Congo. On sait qu'il y a des projets, ces grands projets INGA, pour changer de mode d'énergie. C'est ça?
Oui, voilà. Ça, c'est le dans les projets de l'adaptation, effectivement, nous disons ça. Parce que pour nous, nous considérons que l'énergie alternative au bois de chauffe est une des stratégies par excellence pour la protection des forêts. Et quand nous présentons cet outil, nous avons le barrage d'Inga. Mmh. Et si jamais le barrage d'Inga était financé pour travailler, fonctionner à plein régime, vous voyez un peu l'avantage qu'on aura. 70% des Congolais accéder à l'électricité par rapport à 14% actuellement. Vous voyez les pays comme l'Angola, le Congo, Brazza, le Gabon, les autres, et même l'Afrique du Sud qui pourraient aussi accéder à cette énergie. Ça va évidemment nous aider. Et c'est pourquoi nous voulons que ces fonds-là soient placés ainsi. Au lieu d'aller dans de petits projets, qui sont du reste pas mauvais, de petits projets, parce qu'en dehors d'Inga, il y a aussi d'autres projets. Il y a toute une panoplie de possibilités à travers les affluents du fleuve Congo pour avoir non seulement l'énergie hydroélectrique, il y a aussi le soleil, je vous ai dit, d'énergie photovoltaïque à travers les pays. Nous insistons pour Inga parce que ça serait un grand boom vers le devant, et comme je vous ai dit, la meilleure stratégie de protéger nos forêts.
Mais vous croyez à ça, que ce barrage puisse être financé dans ce cadre? Disons que les grands barrages, c'est des projets qui deviennent plus controversés qu'il y a quelques décennies. Vous croyez à la possibilité de faire financer grand barrage comme Inga dans ce cadre-là?
Nous croyons à la possibilité de faire financer les barrages d'Inga tout en nous disant qu'il y a 4 turbines. On ne dit pas qu'on les finance qu'un seul bailleur ou un seul partenaire, ou dans le fond, on prenne tous les fonds, on mette rien que pour les 4 turbines. On peut aller étape par étape. Nous croyons d'abord, ce qui est important, nous croyons à la préservation des forêts, à la gestion durable des forêts, parce que c'est ça la solution pour faire face aux enjeux du climat. Et nous osons croire aussi que tous les États du monde, y compris les pays pollueurs, croient aussi, ont le même engagement que nous, parce qu'il ne suffit pas d'aller dans des discours, dire nous allons protéger les forêts et que nous avons besoin de laisser les forêts debout pour lutter contre la pollution et atteindre les objectifs, comme je vous ai dit, d'atténuation, et que de ne pas agir. Et nous insistons que tous les fonds qui seront mis, par exemple pour financer les barrages d'Inga ou d'autres projets par rapport à l'adaptation, il ne faut pas que ces pays donateurs ou ces pays pollueurs, par principe des pollueurs payeurs, pensent qu'ils sont tentés de donner à la République démocratique du Congo ou les pays des bassins du Congo. Non, ils sont en train d'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut le voir plutôt dans cet angle-là, n'est-ce pas? Parce que si vous voyez que vous donnez à un pays, comme mon pays, en termes de dons, ça va peut-être apporter des certains autres préalables. Mais si vous pensez vraiment que c'est ça la possibilité, c'est ça que nous devons faire pour lutter contre le réchauffement climatique, qui est un danger planétaire, je pense qu'on va le faire de manière automatique, parce que tous les fonds qu'on pourrait investir dans ces cadres-là seraient toujours minimes par rapport à ce qui peut advenir si jamais il y avait une catastrophe, comme les scientifiques le disent, dans 30, 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Donc exactement, c'est ça.
Voilà. Mais est-ce que c'est aussi parce que vous avez de la peine à financer ce grand barrage?
Ce n'est pas vraiment parce que nous avons de la peine à financer ces barrages, parce que nous ne sommes pas parvenus à financer ces barrages, mais nous continuons à vivre, nous avons nos forêts. Mais maintenant, c'est parce qu'il y a une conscience qui est entre nous pour dire, nous tous, nous avons pris l'engagement de lutter contre le réchauffement climatique, de changer de comportement, de prendre maintenant des mesures responsables, de nous adapter à la nouvelle donne du changement climatique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a été demandé à tous les États du monde de trouver des solutions contre ces fléaux, contre cette situation, par des solutions naturelles. Et nous, nous avons interrogé ce que nous avons sous la main. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un potentiel forestier. Et pour que ces forêts puissent faire correctement le travail, les services pour lesquels nous l'attendons, il faut que ces forêts soient debout, pas couchées. Alors pour que ces forêts restent debout avec ces arbres, il faut leur trouver une alternative qui interdit à leur faire des pressions. Et la meilleure stratégie, nous l'avons aussi, nous avons les barrages d'Inga. Vous voyez ce que je veux dire.
Et quels sont les partenaires actuels de ce grand projet?
Bon, le partenaire datant que nous avions, c'était justement les institutions de Bretton Woods, de tout ce qu'il y a comme institution de partenaires au développement. Maintenant, les partenaires actuels, c'est tous les partenaires qui constituent les pays du monde qui, ensemble avec la République démocratique du Congo, ensemble avec les pays du bassin du Congo, luttent contre les changements climatiques. Nous supposons que c'est ceux-là qui vont être nos partenaires, parce que pour le moment, nous sommes ensemble avec les partenaires membres des CAFI, la Commission pour la protection du bassin du Congo. On a des programmes avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Norvège, la Suède, l'Italie, le Japon et tous les autres des partenaires techniques et financiers qui sont dans les groupes des bailleurs de fonds que nous appelons les Canada aussi est dedans. Évidemment, les États-Unis viennent de rejoindre l'équipe. Et ce sont aussi de
ces patrons. En termes du chantier, non, il y avait une entreprise australienne.
En termes du chantier de Inga, vous voulez dire. Oui. Bon, il y avait l'entreprise australienne, il y a des Sud-Africains, il y a des Allemands qui tous aussi venaient pour financer Inga. C'était dans une autre donne, vous voyez. C'était dans une autre donne purement commerciale d'investisseurs. Maintenant, il y a une nouvelle donne, la donne climat. On se rend compte aujourd'hui que nous devons préserver nos forêts. Qu'est-ce que nous devons faire? À côté de ça, il y a aussi d'autres partenaires qui viennent pour donner l'énergie, les autres alternatives que j'étais en train de dire. Et j'insiste aussi sur les minéraux stratégiques, la transition écologique.
Mais ces nouveaux partenaires, ils sont pour le chantier, qui sont-ils?
Les nouveaux partenaires pour le chantier de manière formelle, le chantier des barrages d'Inga ne sont pas encore venus se prononcer. Nous sommes justement en train de présenter ces nouveaux-là. Nous souhaiterons que l'ensemble de tous les pays pollueurs et dans le cadre aussi des partenariats publics et privés, de toutes les entreprises, des grosses entreprises qui savent que leur industrie produise les pollutions du monde, je crois qu'ils sont appelés à regarder ces projets comme étant une solution qui va aider à juguler les questions du climat.
Parce que pour la Suisse, puisque c'est un pays de barrage, comme vous le savez.
Oui, exactement. Ça, ce sont des partenaires techniques au développement. Avant de venir ici le samedi, j'ai été avec l'ambassadeur de Suisse au cours d'une randonnée fluviale où j'avais convié tous les ambassadeurs des groupes de bailleurs de fonds, les pays, les partenaires techniques et financiers. Le gouvernement suisse était là et nous avons compté poursuivre aussi d'autres échanges avec le gouvernement suisse par rapport à cette technicité, vous venez de dire, des barrages. Et il y a aussi les autres pays constructeurs de véhicules, par exemple, les pays fabricants des aéronefs et aussi des pays pétroliers. Qui sont dans la spécialité d'extraction de pétrole et tout ça. Donc, ce sont là des grandes entreprises qui polluent. Et puis, tous les autres pays du monde industrialisés et pris des sens de lutter contre le réchauffement climatique. Nous osons croire que pour le Congo, on ne va même pas réfléchir deux fois. Pour le bassin du Congo dans son ensemble d'abord, parce que il n'y a pas que le Congo, nous avons plus d'environ 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides avec une capacité d'absorption de pollution de au moins 4 ans au niveau planétaire par jour, les services irréguliers, parce qu'il faut compter aussi les tourbières et les mangroves. Et si on doit rajouter les minéraux stratégiques, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il y a une grande importance. Si vous comparez les différents bassins comme le bassin de l'Amazonie et le bassin du Congo, aujourd'hui, le bassin du Congo est même en passe de devenir le premier poumon du monde parce que nous regorgeons encore des forêts vierges. totalement vierge. Et les mesures que nous avons prises exactement, comme les Gabon et les autres pays de la CEMAC, d'interdiction d'exportation de bois, de grumes à l'extérieur, question de geler un peu la destruction des forêts, la déforestation. Mmh. Et nous avons pris aussi ces mesures de suspension. Et jusqu'à nouvel ordre, ces questions de réguler justement ces domaines-là.
Mais cet été, vous avez mis fin au moratoire sur le 3 nouvelles concessions forestières, ce qui a beaucoup inquiété certaines ONG comme Greenpeace.
Tout à fait.
comment vous expliquez
décision? Oui, je crois qu'on a eu à expliquer à toutes les organisations non gouvernementales. Je vous remercie pour cette question. Vous savez, le moratoire, c'était d'abord une mesure provisoire et conservatoire. Et puis, en même temps, une mesure minima, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce moratoire a été édicté en 2002. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ça fait 19 ans, jour pour jour. Un État responsable ne peut pas rester dans une mesure provisoire pour qu'elle soit provisoirement définitive et surtout qu'elle est minima. Nous avons levé ces moratoires parce que nous avons pris des mesures maxima, des mesures encore plus coercitives et contraignantes pour nous amener à la gestion durable et responsable de nos forêts. Lesquelles mesures, je vous ai dit, la suspension d'exportation de tous les grumes, des bois qui ne sont pas transformés, c'est pour promouvoir la transformation locale et diminuer la pression sur la forêt, donc donner la valeur ajoutée au niveau interne. Nous avons pris des mesures de contrôler tout ce qu'il y a comme contrat et de conservation et d'exploitation que les gens ont acquis. Il y en a qui ont acquis de manière tout à fait illégale. Le gouvernement sera arrivé jusqu'à procéder au retrait de certains contrats. Tout simplement parce que...
Vous avez déjà retiré certains contrats?
Non, nous sommes en processus d'examen. Nous venons de prendre ces mesures. Je viens d'arriver. Je suis arrivé au mois d'avril où j'ai été investi. Et puis, 3 mois après, j'ai commencé les premières 10 mesures. Nous sommes à 3 mois. Vous savez que le Congo, c'est 2 345 000 km², 444, vous le savez. Et en plus, nous avons... dans les milieux des exploitants forestiers, même ceux qui ont des concessions forestières, que ce soit des conservations, c'est un milieu un peu où il y en a qui évoluent parfois dans l'informel total ou alors dans l'illégalité ou tout simplement dans la semi-légalité. Donc nous sommes en train d'y aller au cas par cas et les mesures vont tomber étape par étape. Nous sommes dans les contrôles, dans les cadres de cadastre forestier, pour procéder à la délimitation de tout ce qu'il y a comme concession de conservation, les aires protégées et concession d'exploitation. Et on voit tout ce qu'il y a comme documents administratifs, et non seulement le document administratif, mais le plan de contingence, le plan de travail, ainsi que les cahiers sociaux ou les cahiers de charges, les clauses sociales qui s'en suivent pour que nous puissions prendre les mesures qui s'imposent. Mais rassurez-vous, la levée de moratoire, ce n'est pas pour brader nos forêts, justement parce que nous savons que nous avons plus intérêt à avoir ces forêts protégées, debout, qu'avoir des forêts qui sont exploitées.
Vous pouvez rassurer les ONG qu'il n'y aura pas plus d'exploitation forestière, mais moins.
Non seulement il y aura moins d'exploitation, mais je peux leur rassurer que depuis que je suis là, j'ai pris cette mesure-là, mais je n'ai pas signé un seul document pour octroyer des concessions. Ce n'est pas parce que les demandes ne sont pas là. Les demandes sont au niveau tant national qu'international pour acquérir des concessions de conservation et d'autres même d'exploitation. Pour ceux des concessions d'exploitation, je leur dis, il y a des grumes à cascade, vous pouvez les prendre au niveau local. Nous invitons des investisseurs à venir transformer les bois de travail, les bois d'œuvre, les bois de service pour leur donner la valeur ajoutée localement. Ils peuvent utiliser les bois qui sont déjà là à disposition, mais c'est une utilisation même de 10 à 20 ans, n'est-ce pas? Alors, pour ces concessions de conservation que nous allons voir, nous sommes en train de contrôler parce que les informations à notre possession, c'est qu'il y en a qui ont acquis des concessions de conservation qui n'ont pas signé des contrats avec le gouvernement congolais sur pour capter les crédits carbone, mais ils sont tentés de capter les crédits carbone dans une certaine mesure des concessions privées. Alors ça, c'est une nouvelle donne. Nous allons voir que dit la loi par rapport à ça. Et d'autres, même l'exploitation des minéraux. Je prends le cas de la réserve de faune à Okapi, vers le parc de Epulu, là-bas. Nous tous, nous savons que c'est une concession protégée, un air protégé, forêt classée. Mais on procède à l'exploitation des minéraux. Là-bas, c'est le déboisement total que nous acceptons. Il y a la pollution. C'est la province de la Tchopo, vers l'Ituri. C'est là où il y a la réserve de faune à Okapi. Et puis, il y a encore d'autres mesures que nous avons prises pour l'élargissement de nos aires protégées. Ça fait partie de nos engagements. Au niveau de la loi portant protection, le principe fondamental de protection de l'environnement parle de 15% au moins des aires protégées. Mais maintenant, avec la nouvelle donne du climat, nous voulons aller au-delà. 17, pourquoi pas y aller au-delà. Donc, élargir les aires protégées. Et surtout que nous sommes en pleine décennie de restauration des écosystèmes. C'est depuis le 5 juin qu'il y a, nous avons commencé la décennie de la restauration des écosystèmes. Et nous sommes aussi en pleine décennie de la gestion rationnelle des ressources en eau. Parce qu'on ne peut pas parler des forêts sans penser à l'eau. Parce que ce sont des forêts qui régulent. Les écosystèmes hydriques. S'il n'y avait pas de forêts de bassin du Congo, les forêts de la République démocratique du Congo, on n'aurait pas une seule goutte d'eau en Éthiopie ou en Érythrée ou en Égypte, parce que ce sont ces forêts-là qui régulent. C'est la pluviométrie qui nous permet d'avoir ces réseaux hydrauliques. Donc voilà, les mesures que nous prenons, ce sont des mesures que nous avons prises, ce sont des mesures salvatrices. Ce ne sont pas des mesures pour brader nos forêts, au contraire.
Sur les minerais, vous dites qu'ils peuvent contribuer à la transition écologique, notamment des véhicules, mais pour l'instant, ils alimentent la guerre et l'instabilité au Congo. Comment faire que les minerais favorise non seulement la transition écologique, mais profite aux Congolais et en tout cas pas alimente la violence.
Oui, mais ça, je suis très à l'aise de vous le dire parce que moi-même, je viens du terrain, même si je n'ai pas encore finalisé mon programme. Je suis arrivé, par exemple, dans le Haut-Katanga. J'ai commencé par les contrôles de la pollution d'exploitation des exploitants miniers. J'ai trouvé que les sites protégés de Chikolombwe, le site de l'uranium, il y a eu des accès illégaux à ces niveaux. J'ai arrêté. J'ai trouvé que dans l'exploitation des cobalt, par exemple, et qu'on a utilisé l'acide sulfurique pour nettoyer ces minéraux, et que dans ces bassins de rejet, il y avait des conséquences dans la santé de la population. J'ai fermé tous ces bassins et j'ai amené un rapport comme ça au gouvernement, et notre collègue du gouvernement, ministre des Mines, a pris des mesures de suspension de certaines entreprises bien identifiées. Malheureusement, ce sont nos amis chinois qui, à tout moment, baignent parfois dans l'illégalité. Je ne parle pas du gouvernement chinois, mais je parle des investisseurs chinois. Nous avons pris ces mesures. Et j'ai dit, je suis à l'aise d'en parler parce que le ministère des Mines fait partie du ministère que je suis en train de coordonner dans le cadre de l'action du gouvernement. Comme président de la commission interministérielle d'une commission intergouvernementale, le secteur productif dont fait partie le ministère des Mines. Donc ces mesures sont là. Donc nous sommes venus justement lutter contre cet état des choses. Et puis notre ministre de l'Industrie, qui se trouve aussi dans ma commission, a présenté un plan directeur d'industrialisation du pays. Et surtout en ce qui concerne nos ressources naturelles, leur donner la valeur ajoutée localement. J'en ai parlé à ma première partie de l'interview. Donc, nous allons lutter justement contre ce tas de choses d'alimenter la guerre. Parce qu'il y a aussi autre chose qui alimente la guerre, c'est mettre un peu l'accent sur la traçabilité des armes qui circulent dans notre pays. Voyez, le Congo ne fabrique pas les armes. On n'interdit pas aux pays fabricants des armes de devoir les fabriquer, mais il y a quand même des clauses. Il y a une loi sur le commerce des armes. Il y a une convention qui est connue. On ne peut pas vendre les armes à des groupes incontrôlés. On ne peut pas expliquer le fait qu'il y ait quand même des armes pimpant neuves et qui se retrouvent entre les mains des groupes armés incontrôlés, et on connaît les fabricants de ces armes. On sait d'où viennent les munitions. Ça ne vient pas nécessairement des pays de l'Est, mais aussi des pays de l'Occident. Les pays qui ont, ensemble avec nous, nous sommes engagés dans l'objectif 16 de développement durable, l'agenda mondial d'ici 2030 sur les institutions fortes et les questions de paix, n'est-ce pas? Donc, ça fait partie aussi des préoccupations là au niveau du ministère de la Défense, ainsi que le ministère de la Défense, de l'Intérieur, la Sécurité, où il y a des échanges entre les armes et les minerais. Donc, c'est un lien entre l'exploitation illégale, illicite de nos minerais, des ressources naturelles, et aussi les échanges avec les minerais.
La Suisse, c'est aussi un pays de barrage, mais c'est aussi le siège de multinationales importantes comme Glencore, qui est active en RDC. Est-ce que vous avez des rencontres prévues avec eux?
Exactement. J'ai déjà reçu la responsable gestionnaire de Glencore, Madame Chantal Kaninda, qui est venue nous voir, nous avons discuté, et moi-même, je suis descendu au Lualaba. Je n'ai pas terminé le travail parce qu'il y avait une urgence d'État. Je vais y revenir encore pour les contrôles, et ma collègue aussi du ministère des Mines, la même chose. Je vous dis, le gouvernement congolais, en tout cas, n'hésitera pas à procéder soit à des retraits ou à la fermeture de certaines entreprises qui ne respectent peut-être pas les standards internationaux ou les lois nationales ou même les engagements pris par la République démocratique du Congo, non seulement pour préserver nos ressources naturelles, leur donner la valeur ajoutée, mais aussi pour les questions de paix, pour raison de paix et de sécurité.
Et le président Tshisekedi a annoncé qu'il voulait revoir tous les contrats miniers. C'est en cours, c'est un projet.
Tout à fait. Nous y sommes. Je vous ai parlé des premières mesures. C'est par rapport à la révision de ces différents contrats au niveau du secteur minier. Parce que moi, je m'occupe dans les secteurs miniers. Moi, je planche sur les questions des pollutions environnementales. Mais sur les documents administratifs, l'octroi d'exploitation et tout, c'est ma collègue des mines. Et puis aussi, il y a la défense qui est là-dedans. Donc, c'est un peu... chacun prend le volet qui concerne à ses compétences.
Vous aurez des entretiens avec des représentants de Glencore ici en Suisse ou...
Non, pas en Suisse. Je n'ai pas prévu, en tout cas en Suisse, je l'ai prévu, les représentants au niveau national. Je suis venu ici à l'appel de Forum des 100 pour parler des questions des changements, des villes au cœur du changement. En tout cas, je n'ai pas personnellement prévu des rencontres avec Glencore. Je l'ai fait sur terrain, là où il y a l'exploitation. Si ça nécessite, s'ils ont besoin de moi, ils vont me suivre je suis.
Deux petites dernières questions. Sur la question des villes, qu'est-ce que Kinshasa peut apprendre? Est-ce que la mégapole de Kinshasa qui grandit très vite, il y a beaucoup de défis, qu'est-ce qu'elle peut apprendre en termes d'adaptabilité, d'évolution, qu'est-ce qu'on peut apprendre?
Nous sommes venus personnellement, je suis venu au marché d'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Je suis consciente que j'ai des responsabilités environnementales dans un pays peuplé actuellement de plus de 120 millions d'habitants, où Kinshasa à elle seule a 17 millions d'habitants. Comparativement aux années 60 où nous avions acquis l'indépendance, il y avait 400 000 habitants. Nous en sommes arrivés 61 ans après à 17 millions d'habitants. Et que autant il y a eu cette explosion démographique, mais l'infrastructure sociale n'a pas suivi. laquelle infrastructure, par exemple, concernant la canalisation des eaux, la gestion des déchets, qui constitue aujourd'hui un grand défi, pas seulement le déchet en termes des ordures ménagères, mais aussi tout ce qu'il y a comme déchets hospitaliers, déchets durs, plastiques, de toutes sortes, même de destruction, des débris ou alors des véhicules. Donc, de toutes sortes, ça constitue un grand défi au niveau du ministère de l'Environnement. Et je suis venu apprendre de bonnes pratiques, présenter cela et aussi inviter les potentiels investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, la valorisation des déchets, c'est un grand business dans le cadre de l'économie circulaire. Comme pour leur dire qu'il y a la matière première dans mon pays, par rapport à cela, il n'y a pas que Kinshasa. Il y a les autres grandes villes, parce que nous avons 26 provinces. Donc voilà, c'est ce que je suis venu faire. J'ai répondu volontiers à cette invitation-là. C'est pour ça. Okay.
Dernière question. Bah, Genève, c'était aussi le lieu où, en partie, la dernière présidentielle s'est décidée. Vous étiez là avec Monsieur Bemba sur cette fameuse réunion de l'opposition.
Des désignations.
De l'opposition. Finalement, il y a eu une série de retournement, d'alliance après cette réunion de Genève, et puis l'élection présidentielle a eu lieu avec beaucoup de doutes quand même sur le résultat, qui était le vainqueur réel. Comment faire que, enfin, est-ce que vous n'avez pas déjà l'impression de faire partie d'un gouvernement qui est illégitime dans les urnes?
Oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison, j'assume. J'ai été avec la MUCA, avec le président du MLC dans la région de Genève, où nous tous ensemble, y compris le président actuel, nous sommes convenus pour la désignation d'un candidat commun de l'opposition. C'est ce qui a été fait de manière tout à fait démocratique et consensuelle. Nous sommes arrivés au pays, les élections effectivement controversées, comme on n'a rien à s'en cacher. Mais cela étant, nous sommes un parti politique. Nous avons passé 2 années après les élections, 2 années de tergiversation, 2 années du désordre qui pouvait nous amener à un chaos où la population que nous avons toujours défendue allait en pâtir. Cette même population qui croyait au changement. Le MLC comme un parti politique, parce que nous ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas un syndicat où nous serons là en train de dénoncer sans agir. Nous avons trouvé les bons moments politiques pour dire hey, « stop !» On ne peut pas accepter que d'un côté, on voit les alliés qui nous ont laissés de côté, qui ont tripatouillé, je peux le dire, au niveau des élections, amener tout le monde en bateau comme ça. Nous avons pris notre responsabilité, mais c'est le MLC qui a soulevé la motion de faire tomber les bureaux de cette coalition à l'Assemblée nationale. C'est le MLC qui a soulevé la motion de faire tomber les bureaux du Sénat à l'Assemblée nationale, je l'ai dit, et au Sénat, de ce que cette coalition puisse tomber. Donc, vérifiez dans vos informations, c'est le MLC. Et nous avons retourné la manivelle pour qu'aujourd'hui nous nous retrouvions dans un parti au pouvoir. C'est vrai que nous ne sommes pas. C'est un pouvoir qui n'est pas issu des élections, mais c'est un pouvoir qui est issu d'un courage politique où les apprenants en sciences politiques devaient normalement écrire au sujet de ce que le MLC a fait. Et depuis lors, c'est un calme plat en termes de discussions inutiles et on cape vers les questions de développement. Et maintenant, nous avons un grand combat de mettre en place une CENI apolitique. Une CENI consensuelle qui va nous amener aux élections crédibles, transparentes, dans lesquelles tout le monde peut faire confiance. Et c'est là où nous sommes, nous en sommes. Nous savons que nous avons pris les trains en beau milieu du voyage parce que nous avons dit hey, stop, cette voie-là, vous avez voulu nous amener, n'est pas là. Mais nous croyons que nous allons atterrir à bon port en 2023, en tout cas avec des élections qui vont nous amener à un redressement de la ligne démocratique dans notre pays. Donc on ne pouvait pas croiser les bras, sinon je ne suis pas prophétesse de malheur. Si on ne l'avait pas fait ainsi, ça allait être une catastrophe. Mmh. Vous, comme média, vous avez suivi et maintenant, ce genre de discussion, je crois que vous ne l'entendez plus, la guerre entre les deux alliés.
Mmh.
Voilà.
Ok, très bien.
Je vous en prie.
Merci. Vous avez quelque chose à ajouter?
Non, je n'ai pas quelque chose de particulier à ajouter.
Beaucoup de sujets.
Non, non. Si vous savez, oui. Non, mais sinon, je n'ai pas quelque chose de particulier à ajouter. Je vous en prie.